Du coup, peut-être que nous, on va parler plus fort. Et comme ça, on le rapproche un peu de Gaël. Et là, Gaël, vas-y.
Là, si je parle comme ça.
Ah ouais, c'est beaucoup mieux.
Ouais, là, c'est beaucoup mieux.
Ah ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Ouais.
Bon, ben, désolé pour vous.
On va devoir, ouais. Ok, je te fais confiance. Moi, je crois que la première fois que je t'ai vu, c'était à l'USAS, où tu étais programmateur. Et j'avais envie voilà, que tu nous parles de comment tu es venu au cinéma et pourquoi par la programmation.
Oui. bah, je suis venu au cinéma, c'est une grande phrase, mais non, moi j'étais, bon, j'étais un spectateur de cinéma très jeune, hein, j'ai commencé à voir des films très jeune. Et je me suis quand même fabriqué une culture de cinéma très classique, en fait, voilà, jusqu'à ce que justement je rencontre un petit peu l'équipe des États généraux du film documentaire de l'USAS, où là tout d'un coup, c'était d'abord du documentaire, je connaissais très peu, et puis c'était une façon qui m'a un peu, à ce moment-là, un peu sauvé, je dirais, de la cinéphilie classique, qui commençait un petit peu à m'enfermer, où je me sentais un petit peu enfermé, voilà. Et avoir un petit peu des films français, américains, italiens, quoi, pour dire vite. et puis voilà, des systèmes de récits, des conventions, des archétypes, voilà, qui à un moment donné me pesaient un peu. Et donc c'était une grande, grande découverte, effectivement, de passer par ce festival, d'être amené à voir des films aussi que j'avais pas choisis, enfin que voilà, parce que quand on est programmateur, on regarde, surtout que moi en plus, j'étais programmateur pendant longtemps d'une section qui s'appelait la route du doc, et donc c'était un pays par année. Donc j'allais hop dans le pays en question, et alors je me regardais des tas de films de ce pays. Bon, forcément, il y avait un peu de tout, mais c'était bien, c'était un exercice quand même de curiosité et presque d'adaptabilité, qui était assez génial, quoi. Donc j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Et puis c'est vrai qu'aussi l'USAS, c'est un endroit quand même assez exceptionnel où on réfléchit beaucoup quand même aussi sur le cinéma. C'était comme des classes pour moi aussi. Hein. C'était aussi assister aux séminaires, écouter un petit peu tout ce que mettaient en place mes collègues sur la programmation, la réflexion du cinéma. Donc c'était comme une école, mais une école formidable puisqu'elle c'était aussi un principe d'action. Voilà, donc ça m'a permis aussi un peu de faire un tour du monde. J'étais à Cuba, en Iran, au Japon, aux États-Unis, en Inde, enfin voilà. Et à chaque fois de s'intéresser à la cinématographie en question, avec du coup quand même toute l'histoire qui va avec. Surtout le cinéma documentaire, c'est un cinéma qui est quand même en relation quand même assez directe avec la réalité quand même. La formation en tout cas voilà, que j'ai eue à l'USAS.
Moi j'ai un souvenir de tes séances où tu t'associais deux films différents et c'était comme un montage en fait que tu faisais.
Parce que c'est propre à, en tout cas à l'USAS, les séances sont assez longues puisqu'il y a une séance le matin, une séance l'après-midi, une séance le soir pratiquement. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et donc, ça oblige, forcément, si on a 2h30, et qu'un film documentaire fait entre, 40 minutes et 1h30, à programmer deux films. Et c'est assez génial, parce qu'effectivement, du coup, l'acte de programmer, c'est pas seulement choisir un film, c'est faire du montage, presque, effectivement, entre deux films. Puis après voilà, il y a aussi par quoi on commence dans la rétrospective, par quoi on finit. Enfin, c'est comme un récit hein, finalement. C'est pas rien. Enfin, on se pose forcément, mais je pense tout le monde a la question de l'ouverture, la question de la conclusion, etc. Donc c'était de l'écriture aussi, hein, mais je pense que n'importe quel programmateur pourrait dire ça. Hein, sauf que là, effectivement, le fait que les séances soient longues, ça permettait ce jeu, mais sur lequel j'avais pas de règles. C'est-à-dire que ça pouvait être un rapprochement thématique ou un rapprochement formel, je sais pas, ou autre, enfin, j'avais pas de principe là-dessus, hein. C'était en fonction voilà, des films que j'aimais. D'ailleurs, s'il y a une évolution, je dirais que, en fait, au départ, j'aimais bien associer des films par rapport à leur forme, en me disant oui, le sujet, on s'en fout, etc. Et en fait, j'ai un peu évolué parce que je trouvais que c'était plus intéressant finalement de rapprocher deux films avec un sujet proche parce que c'est là qu'on voyait que le traitement formel, comment le traitement formel pouvait être différent finalement sur le même sujet, enfin, sur voilà, un thème un peu approchant.
Et tu as des souvenirs marquants de cette époque-là, de programmateur ?
Oui, ça j'en ai, oui, j'en ai plein, parce que c'était des aventures extraordinaires quand même. Hein. Aller à Cuba, découvrir tout le cinéma militant depuis la Révolution. Je sais pas, enfin, en Inde aussi, je me souviens que j'avais été à la Cinémathèque à Pune, où ils conservent des archives incroyables, des films qui datent de l'époque anglaise. Puis c'était fou, dans le bureau là, du directeur de la Cinémathèque à Pune. J'étais quand même un peu... j'y allais, je sais plus, en bus, ça avait l'air un peu d'être les confins du monde. J'arrive dans le bureau et au-dessus trônait un portrait gigantesque d'Henri Langlois. Donc c'est drôle comment aussi la cinéphilie française, quand même, on voit, a pu s'aimer... Enfin, je sais pas, j'en ai plein des images. Après, je pense quand même que en termes de programmation, ce qui a été le plus fort, ça c'est pas une surprise, c'est l'Iran. Voilà, c'est quand même le cinéma qui a la plus grande histoire. Enfin, en tout cas, dans les pays où j'ai été, ça a été le plus passionnant. Là, il y avait vraiment une cinématographie construite avec des propositions qui étaient... Enfin, les films qu'on a choisis de montrer cette année-là, je les aimais tous énormément, vraiment énormément. Et ça a été, même, on s'en est rendu compte dans les réactions des spectateurs et tout, un moment vraiment formidable, parce que forcément la limite quand même de programmer des films par rapport à un pays, c'est que, bah, oui, il y a certains films qu'on programme parce qu'on les trouve intéressants, parce que voilà, mais qui ne sont pas forcément tous des objets de premier plan au niveau artistique, alors que l'Iran, c'était quasiment le cas.
Et tu les avais vus où, ces films, en Iran, du coup ?
Alors ça, les méthodes de recherche et d'approche différaient beaucoup d'un pays à l'autre, parce que bon, bah, en Iran, on avait un contact avec l'espèce de CNC local qui nous a montré pendant des jours ce que je partais sur les deux dernières années, Iran et Israël. Je suis parti avec Christophe Postic, qui est le co-délégué général des états généraux donc de l'USAS. Et là, je me souviens qu'on passait nos journées à regarder des films sur les moutons ou sur quelle tradition folklorique. C'était un petit peu, bon, voilà, donner un gage de oui, ça nous intéresse, votre cinéma institutionnel. Mais pendant ce temps-là, on pouvait quand même rencontrer des réseaux dont on avait on avait soit en France, soit directement sur place, des relations qui nous permettaient de... Puis bon, quand même, le cinéma iranien, c'est quand même un cinéma qui, je ne sais plus quand c'était, on a dû faire l'Iran en 2005. Ça commençait quand même à être bien diffusé, on avait des repères, on avait des contacts, c'était pas très 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 difficile.
Et les noms de réalisateurs, tu t'en souviens ?
Ah là, c'est impossible, non. Moi là j'avoue, là, 10 ans après, c'est pas...
Et donc, on parlait aussi, on était à une séance de Manuel de Oliveira, là, juste avant, et on parlait de l'activité de spectateurs dans les salles, qui était aussi fatigante. Et est-ce que tu as des souvenirs de ça, de rapport du film à la salle, aux spectateurs ?
Non, moi j'ai surtout le souvenir quand même en tant que programmateur de la fatigue physique que c'est de voir sans arrêt des films toute la journée. Surtout que nous, avec Christophe ou moi tout seul, d'ailleurs, quand j'y allais, c'était sur un temps quand même assez réduit d'essayer de voir le maximum de films. Après, bon, j'en emportais dans ma valise, hein, mais le mieux, c'était quand même de voir, surtout que des fois, les films étaient en VHS en plus au tout début, donc c'est pas pratique à ramener quand il y en a des kilos. Donc il faut avoir un rythme très 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 dense, commencer tôt le matin, finir tard le soir et ne pas s'arrêter, quoi. Et là, mais en même temps, c'est pareil, hein, je pense que n'importe quel programmateur pour Cannes, par exemple, ou je sais pas, pour un gros festival, n'importe quel festival dira la même chose, hein, que c'est épuisant, c'est éreintant physiquement. Il y a vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure à la projection d'Olivera, c'est que moi je sais que j'aurais pas pu faire ça toute ma vie. Voilà, parce que c'est physiquement éreintant, et il y a aussi quand même intellectuellement, pour moi en tout cas, à un moment donné où il y a un certain nombre de questions qui se sont posées à moi, qui alimentaient ma curiosité pendant que j'étais programmateur, et dont j'ai eu la sensation quand même aussi à un moment donné que voilà, j'en avais fait le tour, ce serait grandir, c'est drôle, le lapsus, ce serait mentir, mais quand même, il y avait quelque chose qui avait, pour moi, trouvé quand même sa réponse. Quand même.
Et parce qu'il y avait nécessité d'en voir autant
Bah, il y a des fois, on ne savait pas, oui, on disait, enfin, tout dépendait de ce qu'on nous donnait, mais quand on nous en donnait au moins, je dirais, des dizaines, peut-être même parfois des centaines, c'était quand même... il fallait les voir, enfin, même si en général quand même on essayait de voir plutôt des choses récentes, donc les dernières années. Mais quand on est face à un cinéma, ben justement comme le cinéma cubain, on est obligé de remonter bien en amont. Après, bon, oui, non, mais on pouvait, après, au bout d'un moment donné, deviner quand c'était une production de, je sais plus, de telle chaîne hyper commerciale. Bon, voilà, ça, on fait quand même des écrémages, après, quand même, un peu plus rapide, forcément. Mais on espère toujours tomber sur, justement, la pépite, le film, justement, que cette chaîne commerciale aura produit sans savoir que c'est super et tout. Donc, le jeu, c'est quand même d'en voir le plus possible, quand même.
Alors, ton premier film, ça se situe à quel moment, du coup ?
Alors je dirais, la notion de premier film depuis le numérique est une chose très relative, hein, parce que moi j'ai des étudiants ou des élèves en cinéma qui ont entre, je sais pas, 18 et 20 ans et qui me disent tous: ah, ça y est, j'ai fait mon premier long métrage, ah bon. Non, ils sont très contents. Que ce soit une fiction ou un documentaire, je dirais oui. Donc j'ouvre une parenthèse, mais là justement j'étais à La Rochelle, je parlais avec l'un d'entre eux qui me disait: ah oui, ça y est, je viens de finir mon premier long métrage. J'ai dit: ah bon, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un documentaire sur ma famille, parce que voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Alors, il fait 1h43, je dis: ah, mais t'es sûr que c'est pas trop long, parce que quand même, pour le diffuser... Ah non, mais personne ne le verra, c'est pas grave. Alors ils intègrent, c'est quand même incroyable, ils intègrent. De toute façon, les films ne seront pas vus. Mais ils sont quand même très contents d'avoir fait déjà un ou deux longs métrages. Donc voilà.
Ils sont vachement lucides.
Ils sont très lucides. Bon, après, c'est aussi, je pense aussi, la génération Internet, YouTube et compagnie. Mais voilà, tout ça pour dire que la notion de premier film est une notion très relative. Donc moi, je dirais quand même que mon premier film diffusé, on va dire, c'était La prisonnière du Pont-Audion en 2005, ce qui correspond, enfin, qui d'ailleurs a été montré au FID en 2006, en juillet 2006, et j'ai arrêté l'USAS le mois d'après. Donc voilà, il y a eu, bon, pour d'autres raisons, mais voilà, disons qu'il y a eu un moment donné où ça s'est enchaîné assez naturellement.
C'était des raisons liées à l'actualité. Enfin, j'étais là, j'étais à l'USAS à ce moment-là.
Oui, c'était des raisons liées à l'actualité internationale.
Voilà, internationale. Et du coup, tu t'es émancipé de ce travail de programmateur et t'es devenu réalisateur à ce moment-là ?
Alors, ça se pose pas en termes d'identité pour moi. Je me suis jamais dit que j'étais programmateur. Hein. Surtout, en plus, comment dire, l'activité à l'USAS, ça prenait pas toute l'année non plus. C'était pour moi une des choses que je faisais, voilà. Et je dirais aussi que je fais des films. Enfin, je préfère dire que je fais des films plutôt que je suis réalisateur. Enfin, c'est pareil. C'est comme.
Des gens, ils aiment pas qu'on les appelle cinéastes. On les appelle réalisateurs. Et toi,
on fait des films. On fait des films. Je sais pas. C'est tout ce qui est trop identité. Je préfère dire que je fais plutôt que je suis.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, le premier film que j'ai fait qui a été diffusé, c'était effectivement en 2006. Et c'est vrai que oui, non, les années de programmation ont alimenté un désir de cinéma, et puis d'une certaine forme aussi, ben, les rencontres qu'on fait, les discussions qu'on a.
C'était quoi, du coup, ton désir le cinéma, c'était quoi?
Alors, je pense pas que je puisse le résumer, parce que je vais parler pour moi, mais un désir de cinéma, c'est une chose très contradictoire et mouvante, et ça se fixe pas comme ça de façon.
Mais tu te souviens de ce que tu avais comme émotion à l'époque, et pourquoi, et qu'est-ce qui te travaillait à ce moment-là?
Oui, mais c'était des choses très contradictoires.
D'accord.
Voilà. À un moment donné, c'est juste tout à coup, paf, c'est possible ici, à cet endroit-là. Et de fait, mon premier film, La Prisonnière, c'est un film sur les conditions d'arrestation, d'action directe, à Vitriologe, au début des années 80, je ne me souviens plus la date exacte. Je filme les paysages, je filme les voitures qui passent, les moutons dans les champs derrière les barbelés. Bon, on est quand même dans un truc assez désertique, où c'est une approche quand même assez phobique quand même du tournage. Hein. On n'est pas de plein pied avec les gens. Hein. Il y avait Françoise Lebrun qui lisait des textes d'Alain Badiou par-dessus. Bon, c'est une forme à l'époque qui se faisait beaucoup. Là, je pense que j'étais assez tributaire de ce que j'avais vu aussi.
C'était quoi? C'était Vincent Dürr, non? Qui avait fait un film avec Françoise Lebrun? Non? Ah non, c'est plus tard.
C'est plus tard. Ça commençait beaucoup à arriver, le film un peu à dispositif, avec ce jeu de voix off autoritaire qui reprenait un peu des choses de Godard et Marker. Ça avait disparu un temps, c'est revenu. Mais surtout, moi, je pense que ce qui était possible, c'était. Excusez-moi, je mélange tout, pardon. Mais là, du coup. En fait, non, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, quand je vous dis, c'est qu'en fait, non, mon premier tournage, en fait, c'est ça, c'était 2002. Et c'est un tournage, c'est le tournage de ce qui va devenir le film, en fait, Julien, qui sera fini en 2010. Et c'était la partie sur Julien, qui était une partie, là, un peu, on va dire, en cinéma direct, en immersion. Et ça, je me suis pris ça dans la tronche, et c'était très dur, je ne savais pas quoi en faire. Voilà, c'est ça, je me souviens. Je trouvais ça un peu zoologique, quoi, comme approche. Et je me suis retrouvé avec cette matière sans savoir quoi en faire. Bon, après, il y a des jours de production, parce que j'étais produit par une grosse boîte de prod, auquel elle s'est tombée, machin truc, mais...
Zoologique, c'est-à-dire ?
Ben, que l'approche du cinéma direct, en immersion, où on fait comme si la caméra n'était pas là, c'est quand même un peu comme être au zoo et regarder les gens. Enfin, bon, après, on peut se débrouiller pour que ça soit un peu, comme un petit peu plus articulé, comme rapport, mais c'est un risque. Et moi, je voyais à travers mes rushs que j'étais pas très, forcément très loin de ça. Il y avait quelque chose dans la proximité, comme ça, et le fait de suivre une action, de suivre, courir après les personnages, qui me semblait pas très construit, pas très intéressant, que j'arrivais pas en tout cas à articuler dans un récit.
Et t'avais passé un contrat avec ceux que tu filmais ?
Non.
Non ?
Non. Non, il n'y avait pas de problème par rapport à eux. C'était pas du tout par rapport à eux.
Et, mais c'est question de la distance, quoi, de ta distance par rapport à ces images-là.
Si on veut, on peut dire ça. Enfin, parce que la distance, c'est aussi en documentaire, c'est aussi un truc qui revient. C'est juste que je ne savais pas quoi en faire, en fait. Voilà, quoi. À un moment donné, j'étais perdu.
Mais elle te fascinait aussi, peut-être.
Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Voilà. Ouais. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et du coup, il y a eu, c'est ça, retour de bâton. Je me suis dit, voilà, prochain film, méfiance. Et comme par hasard, le film suivant, c'était un film où il n'y avait pas de personnage dans le cadre. Voilà. Ouais. Ça y est, je rebondis, je retrouve le point de départ.
Mais finalement, du coup, t'as retravaillé ces images-là pour faire Julien.
Alors en fait, en 2008, enfin 2008-2009, je suis reparti en tournage, effectivement, là, avec une nouvelle boîte de production, Baptiste Fer Productions, et j'ai, en inventant voilà, d'autres formes de représentation, de récits, qui ont constitué ce qui allait être la première partie de Julien. Et ça m'a donné la solution pour monter finalement dans la deuxième partie du film, ce qui avait été tourné en 2002. Voilà. Même si dans le film c'est pas aussi explicite, il y a quand même disons que pour aller vite, le film s'appelle Julien, et pendant trois quarts d'heure, on voit sans arrêt des garçons de 18 ans qui pourraient être Julien, parce qu'il y a une voix off qui raconte quand même un petit peu que ce Julien est un adolescent qui habite la Beauce, qui veut quitter un petit peu son pays, construire sa vie ailleurs et s'émanciper des lois du groupe. Et on voit d'autres adolescents qui sont un peu dans cette situation-là, qui n'ont pas forcément le même rapport au groupe, justement, beaucoup d'entre eux sont très bien là où ils sont. Et c'est ça pour moi qui construit l'accès à Julien, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment comme un personnage annoncé, romanesque, élu, et ça creuse pour moi ce qu'on pourrait dire une distance romanesque, quoi, voilà. Et ça m'a permis de trouver, avec le monteur Benoît Quinan, de trouver d'arriver à choisir dans la matière de 2002 ce qu'il fallait utiliser, et on a fini par s'en sortir en 2010 de cette très très longue histoire. Voilà.
Et en même temps, tu me disais tout à l'heure que pour toi, il n'avait pas été assez vu, peut-être, ce film-là ?
Non, je disais que j'avais un regret sur le fait que, comme c'est un long-métrage, c'est mon seul long-métrage, on a à un moment donné hésité, effectivement, avec le producteur à sortir en salle, et puis qu'on a renoncé, voilà. Parce que c'était très compliqué, on savait que c'était très compliqué de trouver un distributeur, que c'était sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour très peu de spectateurs. Et que, et puis bon, pour d'autres raisons, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est un regret. Je pense qu'on aurait dû s'y coller. Mais par contre, en festival, le film a plutôt. C'est mon film qui a le plus été diffusé en festival. Hein, donc sur la question.
Et ça ne te satisfaisait pas complètement, la question des festivals ?
Si, je pense que sur le coup, ça m'a assez satisfait. C'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, finalement. Le film a vécu sa vie, c'est bien, peut-être que ça suffit, il n'en verra pas plus, voilà. Non, j'étais plutôt très heureusement surpris, en fait.
Tu as gagné un grand prix au FID ?
Oui, c'est ça, il y a eu le prix de la compétition française au FID, ouais. Et puis voilà, il a été à Rotterdam, à la Biennale, il était en Allemagne, enfin en Europe, il a bien fonctionné, donc... Du coup, moi, ça, au contraire, j'étais très, très heureusement surpris, c'était la première fois que quelque chose se passait à ce niveau-là, et je pense que j'avais presque une... je sais pas, une vision quantitative, en disant bon bah si sort en salle c'est pour que voilà quelques personnes en plus le voient. Je pense que je vais pas mesurer à quel point ça pouvait quand même lui permettre d'être quand même vu, quand même peut-être plus tard aussi, voilà, d'avoir d'autres accès, d'autres points quand même aussi de relais, et que aussi c'était la règle du jeu, voilà, sortir un film documentaire un peu qui s'écarte un petit peu des écritures traditionnelles, c'est difficile et il faut aussi l'assumer et pas voilà. Bon, enfin c'est comme ça, voilà.
Et au cours de ces différentes diffusions, qu'est-ce que le film t'a appris sur toi ? Enfin, est-ce que entre la première projection et la dernière projection, est-ce que tu as évolué dans ta façon de le regarder ?
Je dirais non, parce que c'est un film qui m'a pris tellement de temps que de toute façon... le jour où je l'ai fini, ça y est quoi, le parcours était fait. C'est qu'on a quand même, je l'ai fini en, je sais plus, février 2010, et je l'avais commencé en 2002 quand même. Donc il y a eu un temps de maturation quand même suffisamment long pour que je savais ce que j'avais fait, vraiment. C'était là, je pense qu'effectivement pour d'autres films, effectivement oui, la question pourrait se poser. Effectivement,
et là, tu étais aussi dans un rapport contradictoire par rapport, à tes émotions, à ce que tu voulais engager dans le film, ou c'était un film plus extérieur à toi, en fait, celui-là. Est-ce que c'était quelque chose qui était pensé comme étant un projet moins intérieur que ton précédent film?
Mon précédent film, c'était le film sur Guy Gilles, hein, en 2008.
Oui, parce que celui-là, du coup...
oui, c'est ça, les choses sont... Mais...
Parce qu'en même temps, il dure vachement longtemps. Donc on peut imaginer que tu l'as dans la peau pendant toutes ces années-là.
Et... Non, mais je l'ai eu dans la peau. Je l'ai eu dans la peau. Non, mais c'est le film que j'ai fait dont je suis le plus proche. Hein. Et c'était très dur après, d'ailleurs. Hein. Pendant 4 ans, moi, j'avais... Après, c'était dur de rebondir, de trouver d'autres choses. Oui, non, ça m'a un peu vidé, mais parce que justement, j'avais quand même eu la sensation, même si c'est un film qui a beaucoup divisé, hein, il y a des gens qui l'ont beaucoup aimé, d'autres qui l'aiment pas du tout, mais moi, j'ai eu la sensation d'arriver à trouver à cet endroit-là, quand même précisément, ce que je cherchais, vraiment ce que je cherchais, et qui était aussi, d'ailleurs, comme une réponse aussi à mon parcours de spectateur et de programmateur dans le cinéma documentaire, à des choses que je m'étais longtemps formulées, même depuis le tout début, comme ça, même jeune spectateur, et qui trouvait dans ce film, comme c'est un film très très hétérogène, qui utilise énormément d'instances d'énonciation, on va dire, différentes, une manière de circuler là-dedans et de réussir, enfin, pour, à mon sens, hein, être un peu émancipé, un peu libre là-dedans, c'était vraiment un point d'arrivée, et pouf, après, c'était après que c'était dur. Mais le film lui-même, j'avoue que c'est, oui, non, c'est vraiment celui que j'ai fait dont je suis le plus proche et le plus heureux.
Et tu viens de dire qu'est-ce que tu cherchais. Tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu cherchais ou pas ?
Et là, voilà, long silence. Hein. je vais dire juste une petite partie, hein, c'est tout, ouais. Parce que là, je pense que je peux pas comme ça. Mais sûrement qu'il y avait quelque chose qui avait un rapport quand même avec mon goût quand même pour le cinéma de fiction dont je venais au départ quand même comme spectateur. Et que, ou du romanesque, et que je trouve ça difficile dans le documentaire, la façon dont les gens sont assignés, justement, je disais tout à l'heure, je fais et non pas je suis, et je trouve que dans le docu, c'est un peu dur, la façon dont les gens sont assignés à des identités sociales. Voilà. Et souvent, en plus, des identités sociales dominées, donc c'est, les pauvres, et c'est dur, je trouve, moi, de faire bouger ça, parce que c'est quand même, pour moi, une assignation, et... Je trouve la fiction quand même souvent plus forte parce qu'il y a, ne serait-ce qu'à travers l'archétype et la convention, même si ça a ses limites, on peut réussir quand même à partir ailleurs. Et ça, comme spectateur de docu, ça m'a toujours fait chier. Quoi. Que les gens sont filmés parce qu'ils sont ceci, ils sont cela.
Ceci dit, c'est quand même... Enfin, le cinéma est quand même plus pour eux que ça. Dans le docu, la fiction, enfin, les choses s'entremêlent bien souvent. Est-ce que tu sépares, toi, vraiment les deux, en fait?
Alors, c'est drôle, on est au feed, je sais qu'il y a... Mais pour moi, il n'y a jamais eu vraiment de débat, en fait. Pour moi, il y a vraiment ces deux choses différentes, oui. Ces deux choses différentes, mais après, elles peuvent être, effectivement, elles peuvent tout à fait dialoguer, hein. Et ces deux statuts, pour moi, vraiment différents, quoi. Il y a... Je sais pas, enfin c'est con, hein, mais c'est pas la même façon, pour moi, d'envisager du tout les choses. Et Julien, pour moi, est un documentaire, totalement un documentaire, même si y a une grande musique lyrique, il y a un narrateur, comme dans les films, je sais pas quoi, de la Nouvelle Vague ou les films, je sais pas quoi, même si, enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent faire penser à la fiction, c'est du documentaire. C'est pour moi, en tout cas, alors, après, si on veut théoriser, moi, ça me dérange pas, mais disons que moi, en tout cas, dans ma pratique, c'est très clair, c'est très net.
Oui, c'est du documentaire, mais tu prends la liberté de créer un personnage qui s'émancipe du coup de ses places assignées.
Alors oui, c'est, c'est vrai qu'effectivement, oui, c'est pas un hasard. Si d'une part, quand on rencontre Julien, au bout de trois quarts d'heure, enfin le vrai Julien, il a déjà quand même été fabriqué, voilà, dans une convention romanesque, je sais pas quoi. Donc du coup, il y a déjà un jeu comme ça entre le vrai et le faux, et que après le vrai Julien, lui, justement, son enjeu dans le groupe, c'est de s'émanciper de la place qu'on lui assigne, qui en plus d'être un héros, en plus, puisqu'il s'agit d'être voilà le chef des enfin le je sais plus, enfin, de un peu le puisqu'il y a un jeu de rôle avec les chevaliers du son et lumière du village. Et on lui assigne cette place de héros et il dit non. Voilà. Donc effectivement, oui, ça ne pouvait pas ne pas résonner avec cette question-là de l'assignation, oui, sûrement.
C'est ce qu'on retrouve dans ton dernier film aussi, quelque part.
Mais pour moi, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ces gens qui, d'un village du Tarn là, qui montent un spectacle, qui jouent pour la caméra un spectacle qui monte par ailleurs, et qui jouent, voilà, Milady, Constance, tous les personnages des Trois Mousquetaires, on ne saura jamais vraiment, même si on les voit parfois dans leur pharmacie, dans leur usine, dans leur bureau, dans leur jardin, on ne saura jamais vraiment ce qu'ils font. Enfin, justement, pour moi, c'est encore une fois, je le répète, hein, mais c'est important de les filmer pour ce qu'ils font, et ce qu'ils font, c'est effectivement de chanter dans leur salon, dans leur voiture, et qu'à travers ces actions, ces gestes, pour moi, quelque chose bouge, quoi, quelque chose de plus libre s'invente, et moi, enfin, de quel, je sais pas vous, moi, me permet, je trouve, de les voir avec une netteté, avec une... Ils chantent, c'est quand même pas rien aussi là, et en plus ils chantent, ça c'est nouveau quand même, et quelque chose de l'ordre de l'incarnation qui est pour moi plus fort. C'est des corps qui, en plus c'est des gens là, pour le coup c'est pas des adolescents, donc c'est aussi des corps qui peuvent être marqués, qui peuvent être parfois plus âgés, ou plus fatigués, et de les filmer comme ça dans le geste et le chant, sans assignation sociale, qui me permet moi d'en célébrer quand même aussi la beauté de façon voilà plus libre, je sais pas, enfin comment, enfin peut-être que je théorise un peu, mais voilà, enfin on est quand même pas très très loin quand même, je pense, de quelque chose qui peut s'exprimer de façon peut-être plus intuitive au tournage.
La notion de groupe aussi, d'individu dedans, et dans tes films, en tous les cas dans ces deux-là, c'est quand même quelque chose à la fois complexe et à la fois quelque chose que tu traites beaucoup aussi, que tu appréhendes en tous les cas. Quoi.
Oui, mais j'ai l'impression, c'est bizarre, mais c'est vrai que c'est une question, effectivement, parce que là, le prochain film sur lequel je travaille, c'est pareil, mais c'est pas forcément volontaire, mais ça se retrouve, oui, la question effectivement de l'individu et du groupe, mais dit comme ça, ça fait tout de suite thématique ou théorique. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité, hein. Mais je pense quand même que c'est peut-être par là que moi je peux attraper une question politique, on va dire, voilà, au sens large, quoi. Ça devient délicat de théoriser là-dessus, hein, parce qu'encore une fois, ni à l'écriture ni au tournage, les choses se passent comme ça. Mais je sens en tout cas que cette façon de l'être ensemble comme ça, et avec ses contradictions, quoi, avec attention jusqu'où on est englouti et quand même jusqu'où on arrive à tenir le lien, est pour moi voilà, enfin, une question assez centrale. Hein, quoi.
Et tu as un rapport avec ce territoire ? Dans ton dernier film, enfin,
c'est nouveau parce qu'effectivement La prisonnière du Pont-Audion et Julien s'était tourné dans ma région, donc non là pas du tout, ça s'est passé totalement par hasard, puisqu'il y avait ce cœur d'adulte, cœur amateur qui montait donc les Trois Mousquetaires, qui était une pièce, donc une comédie musicale dont moi j'avais écrit le livret. Comme voilà, ça m'arrive d'en écrire par ailleurs, et qui sont joués un peu partout, voilà, en France. Et parfois, les chœurs en question me demandent de venir de temps en temps sur un week-end ou deux ou trois pour les aider un peu sur la mise en scène ou la mise en place, la mise en espace, comme on dit. Et là, c'est vrai que là, du coup, quand je les ai rencontrés, il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est passé. Et on a décidé de poursuivre ça, enfin voilà, avec le producteur, qui est aussi le compositeur, Julien Joubert, avec sa bénédiction et ses financements, puisque c'est un film qui s'est financé du coup uniquement avec l'argent de son association. On a décidé de. Enfin, on a compris qu'il y avait une configuration idéale, en tout cas, pour inventer quelque chose ensemble. Voilà, c'est passé comme ça.
Et qu'est-ce que tu penses du texte qui a été écrit dans le catalogue du FID, du coup? Moi, il y a un truc, il y a quelque chose que j'ai trouvé violent dans ce texte.
Ouais, non, j'ai pas été tout à fait d'accord, effectivement. Donc, du coup, je l'ai dit hein, à la personne qui l'a écrite. Après, bon, chacun aussi voit le film comme il le veut. Hein, il y a un moment donné, c'est peut-être un objet aussi, comme la. Les choses, enfin, où le sujet ne s'exprime pas de façon frontale. Après, je pense aussi que peut-être que ça fait que les gens s'en saisissent de façon peut-être aussi plus diverse, hein, je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, j'étais un petit peu surpris, oui, de la façon dont certains mots, peut-être, effectivement, sur les décors, ou sur une espèce de tristesse allant de soi, de la province, ou de la classe moyenne, etc. Mais bon, après, voilà, je respecte aussi, hein, c'est chacun. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu, ça. Moi, je ne l'ai pas vu, c'était pour moi... c'était même très important qu'il n'y ait pas de jugement, même si c'est difficile parce qu'on juge tout le temps, on place ta caméra, on juge. Mais disons qu'en tout cas, le jugement soit contradictoire, que ça clignote, que ça soit tout de suite, que ça, effectivement, c'est à la fois beau il l'est, c'est à la fois vivant et figé, mais que ça clignote, quoi, que ça bouge. Et quand même, le principe c'était quand même d'aller chercher de la beauté quand même, enfin de se dire que merde quoi, justement, peut-être que les vies sont compliquées, peut-être que les vies sont difficiles, sont un peu effectivement, j'en sais rien, enfin, on les connaît pas les vies des gens de toute façon dans le film, justement. On peut présupposer ou projeter ce qu'on veut, mais elles sont pas vraiment exprimées dans la, enfin précisément. Enfin, je sais pas, j'ai perdu mon idée, mais en tout cas, voilà, oui, c'est sûr que pour moi, il y a une beauté de l'existant. Voilà, elle n'est pas forcément évidente, hein, mais en tout cas, le film travaille dans sa description des choses, dans sa manière de produire de l'action et du geste, à faire en sorte qu'on puisse voir ça avec une promesse quand même de beauté.
Et la question de la joie aussi.
Oui.
Ce qui est rare, je trouve, dans les films contemporains. S'attaquer à cette question de la joie.
C'est justement, j'allais te poser la question de qu'est-ce qui te... Alors, il y a la question de la joie, ce qui est quand même compliqué au cinéma, parce que, et surtout dans le cinéma en train du réel, du coup, on est plutôt... c'est en tout cas plus, souvent plus évident de traiter de choses qui ne sont... ou d'aborder des choses qui ne sont pas liées à la joie, plutôt à la... Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans ton cinéma ou sur lequel t'es le plus attaché, j'allais dire sur des histoires de peut-être de durée, d'espace, qu'est-ce qui est récurrent dans ton cinéma que tu penses avoir comme quelque chose en toi que t'aimes exprimer quoi, dans ton cinéma.
Là c'est pareil, je ne voudrais pas généraliser parce que je pourrais vous dire quelque chose aujourd'hui qui serait l'inverse tout à l'heure ou ce serait l'inverse demain, mais en tout cas puisqu'on parlait de la joie, là c'est vrai que c'est quelque chose quand même c'est parce que c'est une question politique qui à un moment donné, si c'est possible, on ne peut pas la forcer, hein, mais si c'est possible, il faut la montrer quoi, parce que là c'est vrai que quand j'ai vu ces gens, la façon dont ils étaient ensemble, ce que ça pouvait produire, je me suis dit, putain, là, je peux pas lâcher l'affaire, quoi. c'est un miracle, quoi. C'est tellement dur, c'est tellement difficile. Et on est amené, quand on regarde la vie, à... Et ce qui se passe surtout, que ce soit en documentaire ou en fiction, peut-être encore plus en documentaire, à coller davantage, forcément, à ce qui nous oppresse, à ce qui nous pèse. Il faut faire attention à la tristesse. Il y a une espèce d'usure aussi de la vie, là, qui est quand même très, très, très dure. Donc, du coup, quand la joie nous tombe dessus, j'exagère un peu, mais bon, quand on voit qu'il y a quelque chose où il y a une promesse de joie, quelque chose qui serait à ce moment-là montrable, mais sans, parce que la joie, c'est aussi c'est quelque chose de totalement frelaté. Ça peut être la publicité, elle a été confisquée quand même aussi, la joie, en termes de représentation, par la télévision, par une bonne partie quand même du cinéma. Donc c'est une drôle de chose, hein. Mais là c'est vrai que je me suis dit, oh là, il y a une sorte d'évidence, il ne faut pas lâcher ça, parce que montrer que c'est quand même possible dans certains interstices d'être ensemble dans cette joie-là, elle dure ce qu'elle dure en plus, hein. C'est ce que dit Moi, j'aime beaucoup le moment donné où l'institutrice qui joue Milady à la fin dit « Bon, bah, de toute façon, c'est bien joli, mais en fait, on ne se connaît pas en dehors du cœur. » Et qui relativise du coup aussi ce truc comme ça. Il y a un truc qui dit « Ça ne dure que ce que ça dure. » Peut-être même que ça dure peut-être aussi juste le temps du plan. Hein. Voilà, après, encore une fois, on ne sait pas. Mais là, si c'est possible de l'accueillir, il faut le faire. Et ça, c'était comme aussi, c'était, c'est vrai que c'était une promesse que je m'étais faite de pouvoir un jour peut-être faire ça quand même. Parce que quand on est spectateur assidu de festival, on est quand même aussi au bout d'un moment assez plombé quand même.
C'est vrai, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a la question de la joie et du lyrisme aussi. Enfin, le début est très beau de ce cœur qui amène dans la vallée comme ça.
Disons que le lyrisme là se posait un petit peu différemment pour moi que dans Julien par exemple. Pour moi Julien a un vrai film lyrique parce qu'il est fabriqué de toutes pièces avec ça, avec la musique, avec les champs de blé, les plans larges, même la manière dont sont filmés les protagonistes. Là, le lyrisme il passe beaucoup par le chant, mais le chant était une donnée qui préexistait. D'ailleurs, c'était intéressant durant le débat hier parce qu'on posait beaucoup la question de la comédie musicale. Or, en fait, je ne suis pas certain que ce soit un terme si opérant que ça pour ce film-là, parce que ça voudrait dire qu'il y a une écriture propre du chant pour le film. Or là, non, je pense que le chant est totalement documentaire, puisque ces gens, de toute façon, chantent ce qu'ils chantent, aussi en répétant pour eux ou sur scène, quand ils se produisent dans un théâtre. Donc le lyrisme, il est amené par quelque chose qui est une pratique et qui est pour moi documentaire en fait. Hein. C'est filmé, et en plus voilà, c'est des amateurs. Ils chantent avec une grande technicité, mais quand même forcément avec la limite de l'amateur. Je trouve que c'est pas toujours facile la partition qu'ils ont à chanter. Donc c'est un lyrisme, oui et non. C'est aussi le côté aussi brut de décoffrage de quelqu'un qui chante avec son corps, avec ses cordes vocales, avec ce qu'il peut. Et cette puissance-là, elle est à la fois lyrique et prosaïque, quoi, je pourrais dire.
Mais tu l'attises quand même avec différentes façons d'enregistrer, je crois, c'est ça. À la fois du direct, à la fois on ressent différents niveaux de... j'allais dire de présence sonore quand même.
Oui,
il y a quand même quelque chose qui tient pendant tout le film, qui nous emporte pendant tout le film. Donc il y a très peu de, je dirais, il y a très peu de retombées. C'est quand même qui nous emporte pendant toute la durée du film quand même.
Oui, mais c'est le récit là peut-être qui nous emporte. C'est le fait qu'on lâche pas, enfin à quelques exceptions près, on lâche pas le récit, on lâche pas les Trois Mousquetaires. Mais ce récit, il peut aussi se déployer, je pense, dans des scènes qui ne sont pas forcément des scènes lyriques. Hein. Je pense, par exemple, quand les gamins sont dans leur chambre en train de réviser la partition, ou quand D'Artagnan répète dans sa voiture. Voilà, là, on revient quand même à un niveau de représentation qui est assez proche de la réalité.
tu voulais aller où, David, avec cette question de la joie?
Ben non, mais c'était la question aussi politique. Enfin, du coup, tu l'as abordée, mais du coup, pour toi, aujourd'hui, filmer la joie, c'est politique.
Dit comme ça, ça fait un peu peur hein, quand même. Parce qu'encore une fois, c'est aussi de quoi on est privé. Là, ça serait peut-être, on pourrait revenir un peu à la comédie musicale. C'est qu'il y a des niveaux. Ou des régimes de représentation dont on est privé parce qu'ils ont été complètement confisqués.
Une forme de résistance un peu
Il y a des interstices, c'est possible de se glisser dans des interstices, je dirais, effectivement, pour se réapproprier quelque chose. La comédie musicale, c'est le genre, quand même, par excellence, qui a été totalement pillé par la publicité. Enfin, c'est quand on regarde le nombre de pubs qui sont des comédies musicales, et qui, toute la question du groupe, justement, totalement unanimiste, totalement cette espèce de société réconciliée, enfin, c'est terrifiant. Et du coup, c'est très très difficile de faire une. Enfin, c'est un genre qui est politiquement très suspect, d'une certaine manière. Donc là, c'est vrai que cette façon d'aborder les choses par le documentaire et par l'existant, quoi, ce cœur amateur comme ça qui. Voilà, était une rampe comme ça assez miraculeuse pour moi pour me glisser justement dans cet interstice.
Et. Quand t'as contacté, c'était aussi pour parler de quelqu'un, un cinéaste qui s'appelle Guy Gilles, et la question de... Enfin, c'est un cinéaste qui... Enfin, avec, Fabrice et moi qui nous a marqué, qui nous marque. Et j'ai découvert ça lors d'une de tes programmations à l'USA, c'était en 2005.
Bah, c'est quand même le point commun qu'on a avec, avec Vigile, c'est que c'est toi qui nous l'as fait découvrir. Bon, on n'est pas les seuls à mon avis.
Bah, c'est ça, forcément.
Bon, bah, au moins c'est... Bon.
Et dans un de tes mails, tu me disais que par ce dernier film, quelque part, tu t'émancipais de la manière dont le cinéma de Vigile t'avait habité pendant 10 ans. Et que tu es allé vers quelque chose de...
Au plus que 10 ans, parce que j'ai découvert Guigil en 96. Hein. Non, c'est presque 20 ans. Hein. J'ai découvert quand il est mort en février 96. Et en juillet de la même année, il y a eu un hommage qui lui était rendu à Paris. Et sans rien connaître, j'y étais. Et ça a été un choc absolument énorme. Et ça a été effectivement ensuite des années, parce que j'ai rencontré son frère, Luc Bernard, et on a travaillé ensemble pour essayer de trouver des solutions pour que cette œuvre qui à ce moment-là était mais totalement enfouie, mais à un point, c'est-à-dire que non seulement personne ne connaissait, ou avait oublié, ou trouvait ça nul, mais en plus mettre la main sur les films, reconstituer une filmographie, il y avait pratiquement, c'était un bordel absolument, on ne connaissait même plus les dates, enfin, il n'y avait pas l'internet, hein, donc c'était... Donc c'était un chemin très long, et on s'est mis, voilà, à faire des copies des quelques bêtas qu'on a pu récupérer pour copier sur VHS, envoyer à des festivals, etc. Et ça a pris un certain temps jusqu'à ce qu'en 2002, donc c'est long, ah non, on a fait un site internet, donc c'était quand même au moins qui puisse un petit peu centraliser les choses. Et en 2002, j'ai eu un coup de fil de Prune Angler et Sylvie Prat du Festival de La Rochelle qui me disaient « Banco, on a reçu les VHS, on trouve ça génial, 2003, on montre toutes les fictions. » Ça a été un début, ça a été formidable. Il y a eu un accueil cette année-là, mais extraordinaire. Les gens ont été bouleversés. Et ça a permis qu'en 2004 et 2005, à l'USAS, on puisse montrer l'intégralité de son œuvre documentaire, qui est foisonnante, parce qu'elle a été réalisée, entre autres, pour la télévision, pour le RTF, donc à l'époque, et de ses courts-métrages. Et en 2005, même, on a pu montrer tous les courts-métrages, même des inédits, au festival Côté Court de Pantin. Et puis il y a eu d'autres choses, il y a eu un numéro spécial dans la revue Vertigo, à ce moment-là, bon, Olivier Pierre a fait une programmation aussi au Festival de Saint-Denis et ainsi que les hommes vivent. Donc il y a eu à un moment donné, enfin, même dans la presse généraliste, dans l'IB, il y a eu des choses qui sont apparues pour la première fois sur Guigil, et on était en 2004-2005, quoi. C'était vraiment...
C'est très, très, très tardif.
Très tardif, oui.
Et en quoi donc toutes ces années, etc., ce choc que t'as eu en voyant ces films, non seulement habité, mais est-ce qu'à un endroit, j'imagine, tu as été influencé, puisque moi j'ai vu un film que tu es venu montrer à Marseille une fois qui est complètement issu de cette habitation-là, si on peut dire.
Bah oui, c'est Guigil et le temps désaccordé. Voilà, c'est ça, bah oui, donc j'ai quand même fait un film effectivement sur lui. Sachant que Luc Bernard, son frère, avait déjà fait un très beau film, mais qui était un film de témoignage. Mais vous n'entendez pas la parole de Guigil. Et moi, c'est vrai que au cours de mes recherches, je suis tombé sur des tas d'archives, hein, des archives télévision, de radio, et certaines aussi des entretiens pour la presse que j'ai remis en scène, du coup. Et du coup, j'ai construit un film un peu autour de sa parole aussi. Ça me semblait important. Comme Guigil a été quand même à un moment donné aussi. Disons qu'une de ses différences avec ses contemporains de la Nouvelle Vague et des années 70, c'est qu'il n'était pas dans une posture intellectuelle ou d'articulation très, très forte intellectuellement, alors que quand même il pouvait tout à fait défendre ses films. Donc c'est important pour moi qu'on puisse regrouper ce qu'il avait à dire. Donc du coup, effectivement, j'ai fait ce film et j'ai fait un autre petit cours qui est en bonus DVD du coffret des éditions Montparnasse, qui est sur son travail de photographe. Donc ça m'a permis, déjà de solder un peu un certain nombre de comptes, et puis voilà, de mettre à jour des choses qui me semblaient importantes à transmettre. Mais je dirais que le film où ça a été finalement mon film le plus sous influence, c'est Julien, en fait. Même si, bon, il y a des choses dans Julien qui sont encore rien à voir, mais je dirais quand même qu'il y a une forme dans la manière de filmer les corps, dans une espèce de mélancolie qui passe par la musique, qui passe par... La notion de temps, de temporalité aussi, c'est celui dans lequel ouais, mon amour des films de Guigil est à la fois le plus fort sans être trop oppressant, quoi. Enfin voilà, mais Guigil, c'est quand même un cinéaste très 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 mélancolique. Il y a une tristesse quand même aussi des années 70 qui est très dure quand même, hein, surtout quand on voit Absence répétée ou Le dernier, Nuit docile, c'est quand même rude. Et vivre avec ça, revoir ses films sans arrêt, ensuite pour on a fait un livre, il y a eu la rétrospective à la Cinémathèque le mois d'octobre dernier, donc j'ai replongé dedans. C'est quand même c'est un peu lourd, et à un moment donné, c'est vrai que cette tristesse-là, quoi, moi j'en avais un peu marre, quoi. J'avais envie de passer à autre chose. Elle me semblait aussi, d'une certaine manière, historique. Enfin voilà, c'était quand même, c'est vrai qu'on... Enfin, je suis pas le seul, on est toute une génération à aimer énormément les années 70, pour plein de raisons. Le cinéma de Stage, de Gérard Blin, de... je sais pas, enfin bon... Mais à un moment donné j'ai senti que j'avais besoin comme de passer à autre chose, parce qu'il y avait aussi une erreur historique à rester trop à Garrel, bien sûr aussi, à trop rester attaché à cette posture là, quoi, cette posture mélancolique, enfin posture, maintenant je dis posture, mais à l'époque c'était quelque chose qui rentrait en résonance immédiate. Mais après voilà, j'ai vu ces films en 96, j'avais 24 ans, et je pense quand même, je l'ai revérifié au moment de la rétrospective, qui touche aussi quand même beaucoup des gens qui sont jeunes aussi, je sais pas, des gens qui ont moins de 30 ans, je sais pas, c'est... Parce que c'est quand même aussi beaucoup la question de l'enfance perdue, du territoire perdu, est-ce que ça vaut le coup de vivre, enfin... Ça fait très naïf comme ça, mais ce qui est assez miraculeux dans le cinéma de Guy Gilles, c'est que ces questions toutes bêtes sont énoncées avec une évidence. Tout à coup, c'est
clarté.
Une clarté, ça coule de source. Mais oui, on peut se poser ces questions-là.
Ça transpire.
Complètement.
C'est pour ça que je trouve qu'au-delà de la mélancolie dans ces films, c'est vrai, il y a une certaine forme de... tellement une forme de beauté, de joie, et je pense que peut-être que justement dans tes films c'est ce qui aussi ressort, hein, c'est cette question-là, c'est-à-dire il y a une beauté, une joie à travers la mélancolie, et ça c'est possible. Je veux dire, c'est pas que triste, hein. C'est quand tu vois Pan Coupé par exemple, il y a une tristesse, il y a une mélancolie, mais c'est un film brillant aussi. Et donc peut-être que c'est aussi un des aspects que peut-être t'as gardé dedans.
Oui, mais ça on pourrait le dire aussi de Jacques Demy par exemple, je pense d'un certain nombre de cinéastes qui sont justement sur cette frontière comme ça, entre ce combat, cette lutte entre les forces de la tristesse et il a quand même la joie de peindre, presque, je dirais. Enfin,
Et peut-être parce qu'il y a une très très grande humanité aussi dans ces films. Enfin, vraiment. Enfin, je veux dire que c'est... On en parlait avec David là, sur des films qu'on peut voir. C'est franchement pas évident quand même. Il y a une certaine forme de tristesse dans les films qu'on peut voir
contemporains.
Là.
Au film.
Alors peut-être est-ce dû, tu vois, pas que à des histoires de dispositifs ou de recherche, de faire absolument. Un film, j'allais dire, qui fonctionne, ou tu vois, il y a quelque chose qui peut-être on perd la trace entre la personne peut-être qui est à l'origine du film et puis ce qu'on peut voir. On va dire qu'il y a nécessairement une idée de les associer, mais il y a quelque chose de très très froid, je trouve.
Mais merci de le dire. C'est effectivement, il y a une tendresse pour les gens qui sont filmés, une espèce de, je sais pas, de beauté des gens, enfin je sais pas, c'est
d'amour
des gens, c'est très 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 singulier. Il n'y a aucune cruauté dans le cinéma de Guy, aucune. On connaît des grands cinéastes de la cruauté. mais même quand on peut voir ces contemporains de la Nouvelle Vague, qui sont des cinéastes que j'adore, qui ont été absolument constitutifs pour moi de mon rapport au cinéma et de la cinéphilie, il n'y a pas ça. Y a pas... D'ailleurs, ça fait partie, je pense, aussi des choses qui ont été reprochées à Guy Gilles. C'est quelque chose qui serait de l'ordre de la gentillesse, ou enfin à l'époque en tout cas,
mais pour
moi, ou de la naïveté. Mais pour moi, enfin, effectivement, c'est cette façon d'être de plein pied avec les gens, avec ses acteurs, avec ses corps, ses visages, et il y a une humanité, effectivement, je trouve absolument miraculeuse. C'est quelque chose de, pour moi, de bouleversant, vraiment de. Et ça, alors ça, effectivement, ça, si moi je devais aujourd'hui, mais sans le, sans mon, comment dire, le l'exprimer de façon consciente, mais garder comme un trésor quand même au fond de moi, c'est sûr que ce serait ça. Enfin, pour moi, je suis incapable de faire un film cruel. c'est pas possible. Et pourtant, voilà, je sais que, enfin, là, j'ai revu il y a pas longtemps Tous les autres s'appellent Ali, je ça sublime, mais c'est pas possible. Moi, je pourrais pas faire ça. C'est pas possible.
Et on se disait aussi que là, on a vu quelques films au feed, qu'il y a un manque de sensualité, de matière, peut-être aussi d'amour pour ceux qui sont filmés. Mais alors, je ne sais pas si c'est notre époque qui crée ça, mais bon, on n'a pas beaucoup, enfin moi en tout cas, j'ai pas beaucoup de plaisir à voir des films, pas beaucoup de joie en tant que spectateur, et même je pourrais dire que le contexte du festival est aussi un peu produit, est aussi un peu ça pour le spectateur.
Bah, faut attendre, là il y a eu un jour.
Non, il y a eu un jour. Mais, on sent que l'image numérique a apporté quelque chose de, avec beaucoup d'informations dans l'image, et où la question peut-être du mystère est moins présente. Enfin,
ça je peux pas, j'en sais rien. Là je peux pas m'exprimer là-dessus.
Toi, par rapport aux outils avec lesquels tu travailles, enfin, est-ce que tu penses, voilà, quelle caméra utiliser, quelle
Est-ce que la notion de trou, d'espace, de vide, d'absence, c'est quelque chose c'est des choses auxquelles tu penses, c'est-à-dire enfin, aujourd'hui il y a quand même c'est effectivement ces images, enfin en tous les cas cette qualité qu'on arrive aujourd'hui est plutôt très très remplie, j'allais dire, en termes de
ah d'accord, oui, oui, ça y est, j'ai compris, oui.
Donc du coup comment je veux dire, est-ce que il faut faire avec, hein, ça veut dire
oui,
que c'est que
faut
c'est...
faire avec, mais alors ouais, bah là, moi, voilà, pour le coup, effectivement, alors, je comprends votre question. Bah, moi, voilà, j'ai tourné une jolie vallée avec une caméra P2 qui aujourd'hui est totalement désuète, mais qui pour moi est la plus proche caméra du rendu qu'on pouvait avoir avec, avec la mini DV. Et moi, ce que j'adorais quand même dans la DV, c'était la chaleur. Là, j'étais content quand même de lire la projection au moins de l'image, parce que je me disais, putain, oui, ben voilà, ça fait pas numérique, quoi. Il oui, y a un truc, alors que cette caméra, maintenant, bah, si on parle à des chefs-op de la P2, ou à des techniciens, ou à des vendeurs, je sais pas quoi, ils trigolonnaient.
Hein, pourquoi? Parce qu'il y a des absences, c'est-à-dire que quand tu filmes, il y a des sursaturations à des endroits, il y a des trucs qui sont absolument pas évidents, et qui nécessitent quand même qu'on, voilà, qu'il se passe quelque chose, ou qu'on imagine quelque chose, en tous les cas. Donc c'est pas rempli complètement, et c'est vrai que voilà, comment retrouver de la matière, de l'espace, comment pouvoir s'engouffrer dans un espace alors qu'il est complètement comblé souvent dans la haute définition.
Absolument,
c'est pas évident.
Absolument. Oui, oui, ça y est. Donc, ça y est, votre question est claire. Ça y est, je vais pas. Oui, oui, absolument. Mais ça, c'est drôle parce que c'est des choses là, c'est encore une fois dont on peut parler a posteriori. Mais moi, je savais juste que, connaissant un petit peu les caméras, etc., que je voulais de la chaleur. Voilà. Et que la P2 aussi, parce que je la connaissais bien, était la caméra qui me permettait une restitution qui à la fois soit pas trop quand même désuète quand même en termes de définition, et qui me permette effectivement cette je sais pas d'autre mot que de dire chaleur, je sais pas, alors effectivement c'est un peu, du coup l'image est un peu jaune, un peu, enfin il y a des bons, mais je m'en fous vraiment, elle est tellement bleue dans le HD du coup mais ceci dit, parce que moi j'ai fait un court métrage l'année dernière de fiction qui s'appelle La nuit tombée, et qu'on a tourné au 5D. Alors effectivement, là
la
nuit tombée.
Oui, tout se passe dans la nuit.
Alors voilà, il y a quelques parties de jour, mais c'est vrai que c'est essentiellement la nuit. Et là, du coup, c'est vrai qu'on l'a prise pour cette raison, parce que du coup, c'est vrai que c'est un appareil photo, caméra assez extraordinaire quand même, quand on tourne de façon un peu, de façon très légère, aussi très discrète dans les rues à Noël, à Orléans. Et du coup, bon, la configuration faisait que on a choisi ça. Mais et puis bon, que le film lui-même, qui est là, du coup aussi assez encore assez proche de Guy Gilles, dans la une forme, oui, de lyrisme et de mélancolie comme ça, parce que c'est aussi chanté. Il y a quelque chose qui s'ajuste entre la froideur de la HD et l'histoire, mais je le referai pas. C'était bien une fois. Mais
c'est-à-dire que ton prochain film, tu veux encore travailler avec la P2?
Bah, j'en sais rien, ouais. Puis, je sais pas quand est-ce que je le ferai, les choses auront bougé, ça va très 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 vite, hein, quand même, hein. Il faut voir, hein. Je pense quand même que quand on a un certain financement et un certain niveau de production, on peut aussi trouver d'autres solutions après avec des caméras, je sais pas, ou des... Là, moi je suis quand même à un niveau de production qui me permet, enfin qui fait que je suis quand même obligé de travailler très près du rendu de la prise de vue. Enfin, puis une prise de vue que souvent soit je fais moi-même ou voilà, qui coûte rien.
C'est-à-dire que t'as pas une chaîne de talonnage trop complexe.
Oui, et puis j'ai pas d'assistant ou avec des objectifs ou je sais pas quoi. On en arrive dès la prise de vue à transformer le truc, quoi.
Et c'est parce que c'est un mode de tournage qui te convient ou c'est parce que tu as plus tard envie de faire des tournages avec une plus grosse équipe ou...
Ça, on verra. Bah, si je le fais, c'est que ça me convient, je dirais. Voilà. Après il y a les projets qui se font et ceux qui se font pas. Donc peut-être qu'effectivement, depuis Julien, entre Julien et La nuit tombée, il y a eu 4 ans, J'ai écrit des projets qui ne sont pas faits, qui pour certains d'entre eux, effectivement, nécessitaient davantage de moyens, donc la question aurait été différente. Mais sur Julien et sur Une Jolie Vallée, c'était essentiel d'être dans une forme d'artisanat pour être, oui, de plein pied avec les protagonistes et dans un mode de partage, d'évidence au moment du tournage. Si j'arrivais avec une machine, cinéma, une machine équipe, etc., ça, c'était totalement différent. Je pense que là, dans Une Jolie Vallée, le fait que je fasse absolument tout, le fait que je les mette en scène, je sois derrière la caméra, je m'occupe. Il y a un truc qui les. Il y avait une forme d'artisanat, je sais pas, à tous les niveaux, quoi, qui une cohérence, voilà.
Et aujourd'hui, tu vas au cinéma, tu habites où?
Paris.
Tu habites à Paris, tu vas au cinéma souvent ou pas?
Oui, je vais au cinéma beaucoup moins souvent qu'avant, mais avant j'étais un peu dingue, je me suis un peu soigné. Je regarde comme beaucoup de films chez moi, en vidéoprojecteur et ordinateur.
Et quels films te nourrissent
C'est très différent parce que ça dépend des... J'ai quand même un rapport avec les films qui est quand même relié à ma pratique. Donc ça dépend aussi de ce que je suis en train d'écrire. J'ai du mal maintenant quand même à m'intéresser à des films qui seraient totalement en dehors, ça peut arriver, mais qui seraient totalement en dehors de ce que je suis en train de chercher. C'était le cas quand j'avais, je dirais jusqu'à 30 ans et quelques, c'était une période assez géniale, de boulimie totale, etc. Et puis alors comme en plus après 30 ans, il y a eu la programmation avec à nouveau une espèce de gigantesque assimilation. Là, ça me fait quand même du bien d'avoir un peu réduit le nombre de films à voir. Donc j'essaie un peu quand même d'attiser ma curiosité vers des objets qui sont pas forcément ce sur quoi je travaille, mais c'est un peu difficile et c'est un peu artificiel comme maintenant. Quand ça arrive, j'en suis très heureux, mais là j'ai vu dans le train le jour hallucinant qui s'appelle Je demande la parole de Gleb Panfilov. Je ne sais pas si vous l'avez vu, film de 76. Je trouve ça absolument génial. Bon, j'étais très content d'avoir découvert ça.
C'est encore les années 70.
Ah merde.
C'est ça, tu l'as eu.
Parce que c'est vrai qu'après avoir été habité pendant 20 ans par le cinéma de Guigil, est-ce que du coup dans les faiseurs d'images vivants, tu trouves des alliances
Oui, bien sûr, oui, heureusement. Et beaucoup plus d'ailleurs maintenant que quand j'ai grandi, ce qui était très dur dans les années 90, ou les années un peu de ma jeunesse, c'est que je détestais le cinéma qui se faisait à ce moment-là, surtout le cinéma français, mais quand même, c'est un peu le début de l'autorisation du cinéma, du festival international, avec signature, il y a un truc que je trouve... Là, j'étais à La Rochelle, là, je voyais les tout premiers films de Ossia Ossien, je trouve ça fantastique, enfin, c'est pas ses tout premiers, parce qu'en fait il en a fait trois au tout début commerciaux, puis après il s'est mis à un cinéma vraiment personnel, et c'est fou parce que c'est des films sur un été chez grand-père, alors un garçon de 10 ans observe le monde, ou alors les garçons de Feng Kuei, aussi sur un groupe de jeunes garçons l'été, qui ensuite vont monter à la ville, vont passer de la campagne à la ville. On a l'impression qu'après, il y en a eu 40 000, mais là, c'est les premiers. Et c'est génial, parce qu'en fait, ça se sent que c'est les premiers. Quelque chose se cherche. Les garçons de Feng Kuei, par exemple, ils balancent du Vivaldi ou du Bach, je ne sais plus, on dirait du Pasolini. Enfin, c'est encore très, très hétérogène, c'est encore un peu brut. Il n'y a pas du tout cette... Non pas qu'Ossia Ossien, d'ailleurs, soit le pire cinéaste, d'ailleurs, de festival. Hein. Il y a eu bien pire. Hein. Mais disons que les films que j'ai vus, là, ces premiers, là, les années 83, 87, je sais pas, respiraient encore une authenticité. Et après, ça c'est quand même beaucoup, pour moi, c'est un peu dur. Bref, mais j'ai trouvé quand même, il y a eu des tas de choses qui sont passées depuis, je trouve, et qui me permettent de trouver de fomenter comme ça, en tant que spectateur, sans que je connaisse les réalisateurs pour autant, des alliances comme ça, ici et là.
Et le fait que, du coup, c'est ton troisième, quatrième film que tu présentes au FID.
Troisième,
c'est que tu trouve dans ce festival des accointances avec d'autres cinéastes ou pourquoi ce lieu-là?
Déjà quand même je suis sélectionné, c'est pas moi
c'est mais comme il y a cette histoire des premières mondiales aussi pour les faiseurs de films, c'est aussi important de choisir le premier lieu où ils montrent leurs films.
Alors je dirais quand même qu'il y a une chose que je dois dire quand même, c'est que j'ai dit tout à l'heure que mon premier film dont je parle, c'est mon premier film sélectionné. Il se trouve qu'il était sélectionné ici, et je dois quand même à Jean-Pierre Rehm d'avoir été le premier quand même à l'avoir fait, quoi. Enfin, c'est pas rien, parce que c'est de là que tout est parti quand même. Je sais pas, il faut qu'il y en ait un au début. Il y a une telle somme quand même de films qui se fabriquent et de films qui sont envoyés dans les festivals, je sais pas. Donc du coup, il y a quand même pour moi, oui, une évidence déjà à envoyer mes films ici, au bout de trois fois, il faut aussi une certaine émotion quand même à me dire, à sentir que c'est une équipe qui peut encore aujourd'hui soutenir mon travail alors qu'il a changé. Les choses se passent comme ça. Après, la programmation, je ne la connais pas toujours. En 2010, je n'ai pas pu venir, par exemple. Et puis, bon, après, il y a des cinéastes aussi qui font des films ici, qui sont projetés ailleurs. J'ai pas envie, après, de créer des familles ou des trucs comme ça qui sont trop figés.
Tu diffuses tes films autrement que dans des festivals, en fait ?
Alors, ça dépend, c'est très variable, parce que s'ils sont produits, par exemple, par qui ils sont produits ? Là, par exemple, Une jolie vallée, c'est produit par une association, je ne sais pas trop comment on va faire, c'est quand même un niveau de production et de distribution qui est quand même un peu plus fragile. En revanche, Guy Gilles étant désaccordé et Julien, c'est produit par Baptistère Productions, donc ils s'occupent au moins de les mettre en ligne. Il y a une plateforme Dailymotion, de temps en temps ça passe sur Mubi, donc il y a au moins la diffusion web. Puis ça, on peut trouver les DVD dans des. Bon, soit ils sont achetables, soit dans des médiathèques, etc. Il y a un niveau. Voilà, bon, c'est comme ça, mais c'est déjà ça.
Mais ça t'arrive, je veux dire, d'organiser des diffusions toi-même?
Ah non.
Avec des collègues à toi?
Non.
Vous avez jamais pensé comme ça aujourd'hui, c'est quand même compliqué de diffuser, sauf si effectivement ton film il circule énormément en festival avec de la chance, c'est ce qui s'est passé par exemple pour Julien, etc. Mais en tant que cinéaste aujourd'hui, c'est quand même un vrai problème. C'est-à-dire quand tu fais un film, tu sais pas par combien de personnes il sera vu, par 3, par 40 ou par plus, mais c'est la question qu'on se pose tous en tant que cinéaste quand même.
Mais peut-être que la question se posera pour Une jolie vallée, je sais pas, mais là je peux pas anticiper, là je le montre, mais je verrai effectivement. Mais
si tu penses pas à ça.
Le truc, c'est qu'encore une fois, Guy Gilles et Julien, c'était quand même produit par une boîte qui s'est quand même pas mal occupée de l'envoyer dans des festivals et d'organiser des choses. Guy Gilles, c'est un film qui... Enfin, mon film sur Guy Gilles, c'est un film qui, de toute façon, est... Voilà, il est projeté il a été projeté deux fois à la Cinémathèque française, une fois à la Cinémathèque de Brest. De par son sujet, je sais, voilà, un jour il atterrira sans doute dans un coffret, je sais pas quoi. Donc ça va, je ne fais pas de soucis. Julien, on en a parlé tout à l'heure. Donc la question, à la limite, je pourrais me la poser, ouais, sur Une jolie vallée, je verrai. Mais là, je ne l'ai pas anticipé. Je sais pas, on va voir s'il y a besoin que je mette la main à la pâte. Mais c'est déjà tellement dur de les faire que c'est vrai qu'après...
et tes plus beaux souvenirs de diffusion de tes films, t'as des endroits où t'as où le fait de les montrer,
c'était... Oh bah c'est, de toute façon c'est sûr que c'est Julien. Et je pense que c'est parce que Julien en festival, c'était pas toujours facile. Hein. Encore une fois, le film a beaucoup clivé. Hein. Ça c'est. Non, c'est Julien. Il y a eu deux projections. Il y en a une à Grenoble. Je me souviens plus. C'est une association rue d'Alembert.
Le 102.
Le 102, voilà. Et dans un, alors c'était totalement ça aussi, un petit village au-dessus de Grenoble, dire aussi, qui s'appelle Lamure.
Ah oui, c'est avec écran libre.
C'est avec écran libre, ouais. Voilà. Et où il y avait, c'était très mélangé, il y avait des lycéens, et puis il y avait des travailleurs sociaux aussi qui avaient débarqué là, et qu'on parlait du film, alors d'une façon, mais alors avec une compréhension, un truc incroyable. Et au 102, c'était pareil. Et là, ça m'a beaucoup touché parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout ma cinéphilie. Et c'est un film quand même pour moi que j'ai fait quand même avec ma cinéphilie, hein, avec Guy Gilles, avec le cinéma romanesque, avec le film de KPDP, parce que la musique du film c'est celle de Cyrano et d'Artagnan d'Abel Gance. Enfin, c'est lourd, quoi. C'est des choses que bon, les gens normalement ils n'ont rien à foutre, quoi. Et que tout à coup, enfin voilà, des gens venant d'horizons tellement différents puissent avec une subtilité, puis enfin, je sais pas, parler de ce film comme ça, je me dis ah waouh, là on est dans un truc quand même. Assez miraculeux, quoi. Parce que Julien, c'est comme Une jolie vallée. Le sujet n'est pas frontal, les choses ne sont pas affichées. Ça passe quand même beaucoup par des chemins plus ou moins alambiqués. Et tout à coup, c'était évident. C'était évident et c'était deux projections. Voilà. Donc c'était des projections associatives, en fait. Oui. Mais c'est mes deux plus beaux souvenirs, je pense.
Mm-hmm. Parce que les spectateurs étaient dans une vraie rencontre par rapport au film et... et avait peut-être pas, était peut-être pas des spectateurs professionnels comme on peut trouver en festival.
Bah, c'est sûr, hein, je l'ai pas dit, mais il y a une limite quand même au spectacle. Ouais. Mais enfin, après, tout le monde se transforme en spectateur de festival. Ouais. Hein, une fois qu'on y est, de toute façon, je dirais que voilà, il y a un phénomène un peu chimique, malgré soi. Après, on redevient normal, mais c'est comme ça. Et donc, c'est des endroits un peu compliqués, hein, c'est sûr. Hein, il y a une limite, c'est un rythme de fou. C'est, donc, moi, j'ai vu hier les gens après la projection, tout de suite, ils sont partis tout de suite pour aller à la séance d'après. Il y a un truc, mais comment on fait pour engloutir ça? Et puis on se met à parler des films les uns contre les autres, on n'a pas le temps de bien les digérer.
C'est quand même un truc qui pervertit un petit peu le festival quand même, c'est cette histoire de compétition.
Alors ça c'est sûr que c'est dur, hein. Moi,
pas du tout par exemple à Lussas où c'est...
Ben Lussas c'est La Rochelle.
On n'est pas dans une espèce d'excitation bizarre. Là, c'est...
Enfin, c'est compliqué cette histoire quand même de compétition, parce que c'est aussi ça qui permet quand même, je pense en tout cas... Je vois comme tout le travail que fait l'équipe du FID, c'est aussi quand même un travail quand même de mise en avant du travail des réalisateurs. Et c'est vrai qu'à partir du moment donné où on ne prend que 10 films, et pas 50, c'est ça, hein, je crois, ou 20, je ne sais plus, je ne souviens plus, qu'on prend très peu quand même, et qu'il y a après un certain nombre de prix, c'est quand même aussi des leviers après pour cette équipe. Je sais que pour Julien, ça a beaucoup aidé qu'il soit pris ensuite à la Biennale ou à Rotterdam. Hein. Donc c'est compliqué, hein, parce qu'il y a quand même, d'une certaine manière, quand même, c'est des leviers quand même pour aider les films et les cinéastes. De l'autre, pour les spectateurs.
C'est un peu des leviers artificiels quand même.
C'est des leviers.
J'entendais une programmatrice de festival qui était pas loin de moi, et effectivement, on vient faire son marché un petit peu, les programmateurs... passe de festival en festival, etc. La notion de prix, machin, bon, bah voilà, le premier prix, le machin, non,
c'est... Oui, non, mais ça... Mais après, c'est le problème global des festivals, hein. C'est... C'est des endroits quand même où le cinéma s'est coupé de son mode de distribution, je sais pas, d'existence presque, voilà, habituelle.
Nous, on en a un peu ras-le-bol de ça, en fait. David, nous... Enfin, il y a une certaine forme comme ça d'essoufflement de ce système-là. Le FID, c'est un très bon festival parce qu'on y voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quand même une chance de l'avoir à Marseille, ça c'est indéniable. Hein. Il ne faut pas remettre en question cela, mais il y a comme ça quand même quelque chose qui... on a l'impression de retrouver un côté un peu marchand là-dedans aussi, si tu veux. Tu vois, il y a le côté, course, machin... quand on voit des extrêmes, Cannes évidemment c'est un extrême de l'extrême, parce qu'on retrouve effectivement à peu près tous les mêmes réalisateurs chaque année, on va dire le gratin du gratin, même s'il y a des surprises quelquefois quand même, heureusement. Mais du coup, est-ce qu'à ton avis, on peut être optimiste quand même sur les manières de réinventer la diffusion aujourd'hui ou pas? Tu vois, il y a des petites nouvelles salles qui s'ouvrent à Marseille, je sais pas, tu as un point de vue là-dessus ou... Est-ce qu'on va continuer?
Oui,
comme
mais
ça,
attention, parce qu'il y a deux choses quand même. Il y a, en tant que spectateur et en tant que réalisateur, moi je dirais pas la même chose quand même. Parce que moi, c'est vrai qu'en tant que spectateur, je vais préférer un mode de diffusion alternatif où il n'y a pas cette pression, où il n'y a pas effectivement cette concurrence et ce marché, d'une certaine manière, c'est sûr. Effectivement, moi j'adore effectivement des festivals comme la Viennale, La Rochelle, Lussas, où il n'y a pas de. Où il n'y a pas de compétition. Mais en tant que réalisateur, on est dans un monde terrible, quoi. Enfin, si on veut, parce qu'après, je pense, c'est pas tant d'ailleurs aussi de la diffusion que la suite aussi des financements, etc. Enfin, c'est que comment faire pour être vu? Le problème, c'est que c'est la jungle. Pour être vu, ça veut dire qu'il faut qu'on prend la place d'autres qui ne sont pas vus. Enfin, et donc à partir de là, on est foutu. On est dans un marché, on est dans la jungle. Donc, on peut refuser ça, mais ça veut dire que après, pour la suite, c'est plutôt pour la suite, je pense, hein, tout le monde joue le jeu. On envoie nos films quand même dans des festivals, dans des grands festivals internationaux, et on est content quand même qu'ils soient pris. Faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face. Hein.
Et est-ce que Guy Gilles, si son cinéma était un peu oublié, est-ce que c'est pour ces raisons-là qu'à un moment il n'a pas diffusé ses films aux endroits?
Non, parce que je pense que la question se posait très différemment quand même à l'époque, et qu'il y avait des très grands cinéastes qui faisaient très peu d'entrées.
Peut-être que là, sur le coup.
Là, je pense que c'est plus un rapport de contenu quand même. Un rapport de contenu pour les années 60, et quand même sans doute aussi un rapport comme de. Après absence répétée, après 72, il y a eu. je pense quand même un peu une fatigue quand même, les films sont moins forts. Il y a quelques très très belles choses, hein, la Loterie de la Vie en 75 ou Une de Style en 87, mais c'est plus rare. Et c'est à un moment donné où, les années 70-80, où la presse en plus cinéphile se développe énormément et les journalistes y voient des films quand même beaucoup plus fragiles, donc c'est mal tombé, quoi. Là, donc non, je pense que c'est pas tant sur la question de la... Même si, quand même, son tout premier film, L'amour à la mer, n'a pas trouvé de distributeur, ce qui était très rare à l'époque quand même en 65. Hein. Donc de ce côté-là, c'est un de nos ancêtres. Hein.
Et par rapport au cinéma que tu fais, que tu vas continuer à faire, c'est un moment, enfin en tout cas en France, où un peu compliqué, notamment vis-à-vis des réformes du CNC sur le financement des films. Les films qui, comme les tiens, qui sont aussi entre documentaires, avec des choses qui sont de la fiction, qui sont un peu plus peut-être difficiles à écrire, enfin à rendre compte dans un dossier. Comment t'imagines pouvoir faire tes prochains films
J'ai pas de réponse générale. C'est-à-dire que tout dépend. Enfin voilà, ça peut être une jolie vallée, c'est une réponse possible. C'est-à-dire que là, effectivement, un fonctionnement associatif, un film qui coûte presque rien, quelque chose qui peut se faire presque dans l'immédiat. Voilà, là on fonce. Parce que ça correspond aussi. Enfin, en plus, je dis ça, le film a été fait dans une certaine vitesse et en même temps, ça fait 20 ans qu'on bosse avec Julien sur des œuvres pour cœur et ça fait 20 ans que quelque chose, quand même, me travaille quand même aussi sur comment un jour restituer et reconstruire ça dans une écriture de cinéma. Donc, la notion de vitesse, elle est très relative. et puis ça peut être non, et puis après voilà, il faut pas s'interdire aussi de jouer le jeu et de pour d'autres projets aussi d'écrire et de voir si ça fonctionne ou pas, mais je pense qu'il faut avoir une certaine adaptabilité et voir là où c'est possible, quoi, chercher les possibles.
Et aujourd'hui tu vis de ton cinéma ou tu...
Non, pas essentiellement, je peux parfois effectivement être ça dépend quand même beaucoup des financements, mais non, enfin, après je suis intervenant de spectacle parce que voilà, par ailleurs, je peux travailler à gauche, à droite, mais en fait, non, souvent je gagne ma vie en fait justement en étant librettiste, c'est-à-dire en écrivant les livrets d'opéra pour cœur, voilà, que j'écris avec Julien Joubert, et dont voilà, Une jolie vallée a été l'émanation.